première fois que ma mère m'a emmené voir un concert de Julien Clerc, je devais avoir 5 ou 6 ans. C'était au Palais des Sports. Elle avait prévu assez de temps pour dîner dans une brasserie en face. Elle se disait qu'on croquerait un monsieur avec une salade, un truc léger. Pourtant, elle connaissait Raoul. Ouais, Raoul, c'est moi. Ce soir-là, du haut de mon mètre 10, j'ai commandé une douzaine d'escargots de Bourgogne et une choucroute. Imaginez Bernard Blier déguisé en petite fille. Vous voyez le bousin ? Quand maman m'a demandé en rigolant si je voulais un dessert, j'ai répondu non. Raisonnable et rusé, je me gardais une petite place pour une barbe à papa pendant le concert. Alors je me souviens à peine du spectacle, et Dieu sait que j'aime Julien Clerc. En revanche, je me rappelle parfaitement avoir eu soif et les mains qui collent. La barbe à papa était aussi énorme que la patience de ma mère. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce qu'on ne peut plus rien manger. Et que j'ai toujours un Bernard Blier en moi qui réclame des trucs goûtus, des douceurs, un sucre. Et voilà qu'on me traite de droguée. Qu'on m'annonce que le sucre, c'est pire que la coke. Que mon foie ne me le pardonnera pas. Comme on m'a déjà presque tout enlevé, le gras, le sel, la viande, le poisson, la vie, quoi. Moi, j'étais prête à éparpiller tout le monde façon puzzle. Et puis, en lisant mieux, j'ai compris que la faculté voulait bien m'en laisser un peu du sucre. Mais du bon. Du qui avance au grand jour, pas planqué dans les lasagnes au cheval et les sushis de supermarché. Alors je vais l'écouter, la faculté. Parce que l'idée, c'est quand même que je vive assez vieille pour emmener mes petits-enfants à un concert de Julien Clerc et leur offrir une barbe à papa.
Une bonne tasse d'été.
Il est déjà 9h, là !
Marie Sauvion.
Sur mon enfant, il n'y a pas marqué Radio Réveil.
Sur France Inter.
Bonjour et bienvenue dans une bonne tasse d'été. Alors le sucre, ou plutôt les sucres, sont-ils nos ennemis ? Est-ce qu'on a encore le droit de s'offrir un chichi chaud qui fait bronzer sur la plage cet été ? Est-ce qu'il y aura assez de sirop d'agave pour tout le monde ? On en parle tranquillou ce matin jusqu'à 10h avec des invités qui vont nous aider à nous y retrouver. Le premier d'entre eux est médecin. Bonjour Boris Ancel.
Bonjour.
Alors vous êtes endocrinologue, responsable de la prise en charge de l'obésité à l'hôpital Bichat à Paris. Et vous co-signez avec le pâtissier Benoît Molin un livre qui mêle infos et recettes, sans grani sucre ou presque, chez Flammarion. Alors Boris Ancel, comment est née votre collaboration avec ce pâtissier formé par Gaston Lenôtre ?
Eh bien, ce pâtissier, je l'ai connu parce que, pour vous dire les choses, il accepte que je le dise, je m'en occupe à l'hôpital pour différentes choses qui vont d'ailleurs très bien aujourd'hui. Et Benoît m'a dit un jour... Écoute, nous, en tant que patients, le public, on n'y comprend plus rien. On a l'impression, et comme vous le disiez en introduction, qu'il faut tout éliminer, que le sucre est notre ennemi, qu'on en est addict. On entend en même temps qu'il faut manger moins gras si on veut éviter de mourir d'une maladie cardiovasculaire. Donc, si on écoute chaque information en elle-même...
Il reste la soupe aux cailloux, si on
écoute. Reste l'eau. Il reste l'eau.
C'est ça. Ouais.
Et les cailloux, mais les cailloux, ça fait mal, à mon avis. Et donc, on s'est dit, bien, faisons ensemble un livre. Alors, je lui ai tout de suite dit, attention, moi je vais pas céder. Je vais pas céder. Je sais que vous êtes pâtissier, je sais que vous allez avoir
vous
envie...
Vous étiez prêt à la bagarre.
De mettre du... J'étais prêt. Je lui ai dit, soit vous jouez le jeu... Soit on se bat, soit je n'y vais pas. Et il a dit, on joue le jeu, je joue le jeu.
Bon bah génial, on va y revenir. À vos côtés, Sylvie Metzeler, bonjour. Alors vous êtes rédactrice en chef du magazine 60 millions de consommateurs, dont le numéro de juillet-août propose une grande enquête sur les boissons de l'été. Voilà un sujet qui nous intéresse. Et par ailleurs, dans un hors-série consacré aux aliments toxiques paru en mai, que j'ai dévoré, 60 millions de consommateurs déclaraient le sucre ennemi public numéro 1. Est-ce que vous maintenez cette grave accusation ?
Alors, ennemi public, c'est sûr. Numéro 1, on l'a pas écrit. On a mis ennemi public, c'est déjà pas mal.
C'est moi qui ai fantasmé un titre de film.
Parce qu'il y en a encore d'autres. Mais en revanche, on aurait pu dire aussi faux amis public numéro 1. Parce que le sucre, on adore ça, on en mange plein, et, y compris dans plein de trucs cachés. Et après, on le paye quand même.
Ouais, c'est ça. Et enfin, je suis ravie d'accueillir Marie-Laurence Grézeau. Bonjour Marie-Laurence.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste santé, spécialisée en nutrition, et vous écrivez notamment chez notre partenaire Psychologie Magazine. Vous avez aussi coécrit le livre « Ces aliments qui rendent heureux », disponible en poche chez J'ai lu Bien-être. Alors une question, même pas piège, est-ce que le sucre rend heureux ?
Oui, au départ oui. Ouais, quand on commence à manger les premières bouchées, les deux premiers carrés de chocolat, ça fait du bien, ça... Il se passe quelque chose au niveau cérébral. En fait, ça active le système de récompense, ça libère des hormones qui nous font du bien, la sérotonine, la dopamine. Et puis ensuite, le problème, c'est le trop. C'est qu'à partir du moment où c'est trop, là, le sucre prend le contrôle du système de récompense.
Et c'est plus le bonheur.
Et c'est plus le bonheur. Oh. Et ça devient une drogue.
Eh ben, on va en parler tout à l'heure. Docteur Ancel, pour bien saisir l'urgence d'une désintox, quel est le pourcentage d'obésité en France ? Quid du diabète ? Quelles sont les maladies causées par l'abus de sucre ?
Alors en France, effectivement, on a un pourcentage qui augmente régulièrement concernant l'obésité et le diabète, même si on dit que ça se stabilise, mais il faut faire attention aux informations faussement rassurantes. Aujourd'hui, 15% de la population est en situation d'obésité, donc une maladie, et à peu près la moitié de la population adulte présente un surpoids, c'est-à-dire déjà un excès de graisse à l'intérieur du corps, qui peut éventuellement nuire à la santé. Nuire à la santé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement les conséquences de cet excès de graisse qu'il y a dans le corps. C'est d'abord le diabète, vous en parlez, c'est à peu près 4-5% des adultes. Et puis, en bout de chaîne, les maladies cardiovasculaires. Et également, on attribue à l'alimentation un rôle dans les cancers, y compris le cancer du sein, le cancer du côlon. Donc, on va pas énumérer et faire peur. Ce que je voudrais dire, c'est deux choses. La première chose, c'est que c'est pas parce qu'on a un excès de graisse dans le corps qu'on est forcément à risque de faire ces maladies. On est chacune et chacun d'entre nous différents et on va pas stigmatiser la personne qui a un surpoids en lui disant bon voilà, toi t'es en danger, c'est hyper grave, arrête le sucre, arrête le gras, mange des légumes, mange des fruits. Non, on va explorer cette personne, on va l'examiner, on va faire quelques examens, on va affiner, et c'est ce qu'aujourd'hui la médecine sait faire, affiner le diagnostic. On a des personnes qui ont un petit excès de poids et qui vont très bien. Et on a des personnes qui ont un petit excès de poids et qui ont déjà un diabète, déjà un risque cardiovasculaire élevé. Et on va affiner la prise en charge vis-à-vis de ces personnes. Et le deuxième message que je veux dire rapidement, c'est que l'obésité, c'est une maladie et on n'est pas coupable. C'est pas par sa faute qu'on devient obèse. Évidemment qu'on est responsable aussi de ce qu'on mange, de ce qu'on achète, comment on s'organise.
Il y a des facteurs génétiques.
Mais il y a énormément de facteurs. C'est extrêmement compliqué. On ne va pas développer là maintenant. Mais il faut savoir que quand on est obèse, ce n'est pas simplement... Tu n'arrives pas à contrôler ta volonté et à t'empêcher de manger.
Fais des efforts.
C'est compliqué.
Changer son corps.
C'est compliqué. Et nous, médecins, notre rôle, c'est d'accompagner les personnes en situation d'obésité et les aider avec des conseils qui sont vrais pour toute la population. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est valable pour tout le monde.
Oui, c'est ça.
Et en affinant pour ces personnes qui sont un peu plus en danger que les autres.
Et notamment, c'est valable pour toute la population, et c'est valable notamment pour les enfants, parce que j'imagine que ce qu'on leur donne à manger et à boire tous les jours, là, on prépare une génération qui ne promet pas forcément d'être en bonne santé.
Vous savez, on est tous les quatre autour de cette table. Évidemment que ce qu'on fait au quotidien, c'est en grande partie des choses qu'on nous a ancrées dans le cerveau, dans notre corps, depuis l'enfance. Donc, c'est difficile de savoir comment sera la situation dans 20 ans, parce que aujourd'hui, il y a eu pas mal d'efforts qui ont été faits pour l'éducation, mais on a l'impression qu'on n'a pas encore trouvé la bonne voie, et donc il faut absolument, effectivement, éduquer les parents, accompagner les enfants avec des conseils simples, des recommandations qui ne sont pas restrictives, parce qu'on sait que ça ne marche pas, mais peut-être de l'information, de la pédagogie, et peut-être qu'on y arrivera. Effectivement, il faut s'attaquer aussi à l'éducation des enfants.
Marie-Laurence Grézeau, est-ce que vous savez combien de sucre on consomme en France ?
Alors, je crois que la consommation par jour et par personne est de 100 grammes environ et que les recommandations de l'OMS sont de 25 grammes. C'est-à-dire qu'en fait, on consomme par personne et par jour 4 fois plus de sucre que les recommandations.
Et ça, c'est tout sucre confondu ? Parce que c'est là que les choses deviennent un peu compliquées.
Oui, c'est tout sucre confondu. C'est-à-dire que 100 grammes, ça correspond à 6 cuillères à café de sucre blanc.
Le sucre en poudre.
Mais le problème, c'est que vous consommez pas 6 cuillères à café. C'est que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sucres qui sont cachés ailleurs, qu'on ne voit pas. C'est ceux-là qui sont les plus ennuyeux, parce que vous ne les contrôlez pas.
Docteur Ansel.
Oui, alors il faut encore faire une distinction, en fait, au sein de ce que vous appelez sucre, parce qu'en réalité, on va avoir les glucides. C'est la famille, la grande famille des sucres, en réalité. Pour nous, médecins, les sucres, c'est en réalité les glucides. Et ces glucides-là, on en consomme aussi dans les pâtes, le riz, les pommes de terre, le pain. Ce qui n'a pas une saveur sucrée. Et ça, on en consomme à peu près 200 grammes, 250, 300 grammes par jour. C'est au sein de ces glucides qu'on va avoir ce qu'on appelle les sucres totaux. Et au sein des sucres totaux, on va avoir les sucres simples. Donc, on peut, à mon avis, aujourd'hui, parler des glucides en général. Et au sein des glucides... on va avoir des glucides qui seront de meilleure qualité, des glucides qui seront de moins bonne qualité. Et globalement, oui, on en consomme trop, mais ce qui est important à dire, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité. Il y a des gens qui en consomment relativement peu, et puis il y a des énormes consommateurs de glucides. Et on n'est pas tous au même niveau.
Le sucre aura-t-il notre peau, mais jamais de la vie? Envoyez-nous vos remarques ou vos questions sur l'appli France Inter ou sur Twitter, hashtag Tasse d'été.
Je suis la fille sans joie d'un demain sans fête, une larme sans poids, une boîte sans lettres. Je suis piscine de bar, une piscine d'hôtel, sur mes côtes d'azur, c'est chaud, les âmes faibles, ma salive.
Préfère la mer, mais sa chanson s'appelle Piscine. Quelle drôle de fille, cette Camille.
Une bonne tasse d'été.
La vie n'est pas facile, elle est dure.
Marie Sauvion.
Bah écoutez, monsieur, je vous propose d'écouter la radio.
Sur France Inter.
Vous écoutez une bonne tasse d'été, mais aujourd'hui elle est sans sucre. On parle désintox jusqu'à 10h avec le docteur Boris Ancel et les journalistes Sylvie Metzolard de 60 millions de consommateurs et Marie-Laurence Grézeau de Psychologie Magazine.
À quelle fréquence est-ce que vous consommez du sucre ?
Matin, midi et soir.
Je n'achète même pas le sucre parce que je sais que c'est pas bien pour la santé.
Par jour, faut qu'on parle en grammes, en quoi ? Le petit déjeuner le matin, tout ce qui est lait, céréales, etc. Le midi, tout ce qui est dessert. Sinon, des bonbons en général, gâteaux, etc.
Vous faites attention un peu à votre consommation de sucre ?
Non, pas du tout.
C'est vrai que je commence à faire attention. Mais c'est vrai que je commence en fait, vraiment. Je suis vraiment dans le début.
Le seul sucre que je consomme, c'est le fructose, les fruits. Je ne mets pas de sucre dans mon café, je ne mets pas de sucre dans, je sais pas, le yaourt. Non, j'utilise pas de sucre. Sauf le sucre qui est obligé, là, qu'on ne peut pas choisir. Les aliments qui contiennent déjà du sucre.
Le sucre, c'est une drogue, d'après vous?
Ça peut devenir une addiction, une drogue, je ne sais pas.
Oui, une addiction totale.
J'ai entendu une émission, je crois que c'est sur France Inter, où il était question de l'addiction que pouvait donner le sucre avec une expérience avec un rat qui en proposait de la drogue et du sucre. Et quand il était sevré, il se précipitait sur le sucre. Je me dis, je continue.
Alors, ma pâtisserie préférée, c'est la citron moraillée.
L'éclair au café.
Ah, le flan, moi. Flan nature.
Je les consomme quand nous allons au restaurant parce que mon mari n'aime pas les gâteaux au chocolat, donc je craque quand il y en a un sur la carte.
Moi, je suis d'origine marocaine, j'aime bien les gâteaux marocains.
Le chocolat, j'adore le chocolat, voilà. Mon péché.
Oui, c'est quand même j'écris tout ça.
Alors, vous l'avez entendu dans notre micro-trottoir, certains parlent de sucre, d'autres de fructose, mais alors on lit aussi des trucs sur le glucose, le lactose, la maltodextrine. Docteur Ancel, qu'est-ce que c'est que tout ça?
Alors, on va reprendre de la classification de tout à l'heure. On a les glucides en général. Ça, c'est tout ce qui va être sucre. Et vraiment, c'est le terme que je pense qu'il faut utiliser pour faire très simple. Au sein des glucides, on a les sucres simples. C'est une molécule, en fait. Et vous avez le fructose, le glucose, le lactose. Et donc, chacun de ces sucres simples peut s'associer à d'autres sucres simples pour faire les sucres totaux, ce qu'on appelle les sucres totaux. Donc, vous avez sucre simple, c'est une molécule. Sucre totaux, ça va être le sucre simple qui se font être enchaînés entre eux pour faire qui s'associent et qu'on va trouver donc dans les aliments sucrés, dans le sirop de glucose fructose. Vous voyez, c'est le glucose plus fructose. Et puis après, vous avez les glucides en général qui sont ces sucres-là, plus encore des combinaisons de ces sucres simples qui vont faire de l'amidon qu'on trouve donc dans les féculents, dans le pain, les pâtes, le riz, etc. Alors le fructose, comme on a dit, c'est un sucre simple. Où est-ce qu'on le trouve ? On le trouve d'abord dans les fruits. Et puis ensuite, il a été utilisé par l'industrie agroalimentaire pour faire, pour être un constituant qui remplaçait le sucre classique, c'est-à-dire le saccharose de sucre blanc. Pourquoi ? Tout simplement parce que le fructose fait moins monter le taux de glucose dans le sang que le saccharose. Le glucose, c'est celui qui définit le diabète. Quand vous avez un diabète, ça veut dire que dans le sang, vous avez un taux de glucose qui est trop élevé. Et cet excès de glucose, donc un sucre simple dans le sang, peut donner des dégâts au niveau des reins, des yeux, des artères. Et donc, il faut éviter cette augmentation du glucose dans le sang de façon chronique, de façon régulière. Alors, comment on fait pour éviter ce glucose ? Eh bien, si on réduit de manière globale les glucides, on va réduire ce taux de glucose dans le sang. Mais ensuite, en fonction des sucres, on voit qu'il y en a certains qui font monter plus ou moins le glucose dans le sang. Et c'est ça qu'on appelle l'index glycémique. C'est la capacité d'un aliment à faire monter plus ou moins le glucose dans le sang. Et il se trouve que le fructose fait moins monter le glucose dans le sang que le sucre de table, le sucre blanc, qu'on appelle le saccharose. Donc, beaucoup de personnes se sont tournées vers le fructose en se disant « bah si je mange du fructose, j'ai moins de risque de diabète, j'ai moins de risque d'augmenter mon glucose dans le sang et donc moins de risque de maladie ». En fait, c'est vrai qu'on monte moins le glucose dans le sang, mais on sait aujourd'hui que le fructose, il a plein d'autres inconvénients et notamment, il favorise l'accumulation de graisse à l'intérieur du corps. Donc, consommer du fructose en alternative au sucre classique, c'est pas une bonne idée. La seule réserve, c'est le fructose qui est dans les fruits. Naturellement contenu dans les fruits. Vous voyez, je vous disais, le fructose, il se trouve dans les fruits, et puis on peut l'extraire. Si on le consomme dans les fruits, là, on pense qu'il n'y a pas les effets délétères, et puis dans les fruits, il y a plein d'autres choses associées au fructose qui vont atténuer les effets délétères du fructose.
Sylvie Metzelaar, de 60 millions de consommateurs, j'ai écouté ça super attentivement et vraiment j'apprécie votre pédagogie, docteur Ancel, mais est-ce que vous comprenez que dans la vie de tous les jours et dans nos micro-trottoirs, les gens s'y perdent?
Mais les gens s'y perdent complètement. On passe notre temps à faire des pense-bêtes dans tous les sens en disant regardez bien dans les étiquettes, parce que voilà, on a parlé de tous ces noms différents pour les sucres, dextérose, fructose, glucose, lactose, enfin, et les maltos, trucmuches là, qui servent notamment, parce qu'on dit pas à quoi ça sert. Alors déjà, il faut dire que l'industrie agroalimentaire s'en sert parce que ça fait aussi baisser la note hein, par rapport à la saccharose ordinaire. C'est aussi beaucoup moins cher. Et surtout, on s'en sert pour faire des liants de sauce. Enfin, après, on parlera peut-être des produits où
oui,
on y
viendra.
Tous ces trucs cachés,
ouais,
là. Hein.
Ouais.
Voilà. Mais donc, il y a ça. Il y a des tas de noms pour les sucres. Et il y a plein de noms pour les édulcorants. Alors voilà, nous, on fait des pense-bêtes. On dit, voilà, on a fait un petit bouclette, là, pour que les gens puissent partir avec au supermarché en regardant les noms compliqués ou les petits numéros qui correspondent.
Oui.
Mais c'est horrible, quoi. D'où l'intérêt, l'importance d'avoir un étiquetage clair, alors avec des couleurs, avec des lettres, avec ce qu'on veut. Alors, on en parlera. Il y a quelque chose qui est en cours. Nous, on milite à fond pour ça, même s'il y a des limites, hein, on verra aussi. Mais notamment pour les boissons sucrées et avec les boissons à l'aspartame, etc. Mais il faut, quoi. Les gens sont paumés.
Alors Marie-Laurence Grézeau, est-ce que d'après vous c'est un comportement moderne, c'est-à-dire un comportement quoi de la deuxième moitié du XXe siècle, on va dire, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents consommaient combien de sucre ?
Ça, j'ai pas trop l'idée de la consommation de sucre, mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait l'industrialisation, l'agroalimentaire a complètement changé la donne. On se retrouve avec des aliments transformés qui aujourd'hui contiennent du sucre, voilà, ce que n'avaient pas les générations précédentes, puisque en fait ils consommaient de façon plus naturelle, ils allaient consommer l'aliment naturel, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, le chou, le yaourt, enfin les aliments étaient plus simples et du coup en fait étaient moins transformés et donc du coup il y avait moins aussi ces glucose, fructose, amidon de maïs qu'on trouve aujourd'hui dans
en pléthore de maltodextrine, non barbare. Je vous propose une mini pause douceur qui va rappeler des souvenirs à tout le monde.
Le fondant. L'onctuosité.
La saveur. L'arôme. Tout le plaisir. Tous les plaisirs d'un chocolat de grande origine.
Alors maintenant qu'on a tous bien envie de chocolat, grâce à cette vieille pub sexy, je ne suis pas une balance. Hein. Je tiens à dire que le docteur Ansel se trimballe avec une plaquette de chocolat dans son sac. Parlez-nous de ce chocolat, qui est du chocolat noir, 90%.
Bah, je vais vous dire la vérité, moi je viens de loin, donc j'ai pris mon chocolat pour mon café. Le café, vous me l'avez offert, le chocolat, il n'était pas là. Donc j'ai amené...
Bah, on doit progresser encore sur l'accueil à une bonne tasse d'été, je me le note.
Non, il y a ce qu'il faut à l'accueil, mais autre chose. Donc effectivement, quand on choisit ces aliments, qu'ils soient sucrés ou gras, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, vous l'avez évoqué, on ne met pas tout à la poubelle. On ne s'interdit pas tout. On va simplement choisir les gras et les sucres de meilleure qualité. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si vous prenez effectivement un chocolat et un chocolat très riche en cacao, donc au-dessus de 80%, au-dessus de 70%, eh bien, vous allez avoir très peu de sucre. Vous allez avoir du gras, mais du gras végétal qui est plutôt de bonne qualité. Et vous allez avoir les bienfaits probables du cacao.
D'accord. Vous en parlez, Marie-Laurence Grézeau, dans Les aliments qui rendent heureux, vous rendez hommage au chocolat.
Oui, ça reste quand même un aliment. Alors, comme le dit le docteur, il faut qu'il ait un pourcentage en cacao qui soit élevé. Parce que moins il est élevé, plus il y a de sucre et de mauvaise graisse. Hein.
Alors, on est les plus forts, on se fait une bonne tasse d'été sans sucre jusqu'à 10h sur France Inter.
Just how to call.
Chewbacca, maître des platines, nous a choisi l'excellent Funny Dog Royal de Ty Segall. Merci à lui. Alors maintenant, qu'on y voit un peu plus clair. Moi, j'ai enfin compris cette histoire d'indice glycémique, IG, on dit IG quand on sait, hein,
pour
c'est
les
ça
intimes.
Voilà, pour les intimes. Alors, on va quand même rappeler un truc que j'ai, voilà, une question que j'ai oublié de vous poser, mais le cerveau a besoin de sucre, on est bien d'accord. Marie-Laurence Grézeau, vous écrivez dans votre bouquin que le sucre est une pile pour le cerveau.
Ah oui, le cerveau, il est ce qu'on dit glucodépendant. Ça veut dire qu'en fait, il a besoin de sucre pour fonctionner, 5 grammes par heure.
Ça veut dire, ah, c'est pas rien quand même.
Ça veut dire pas mal. Et en plus, il peut pas stocker. Donc c'est pour ça, en fait, la distinction entre les sucres simples et les sucres complexes qu'a donné le docteur Ansel est intéressante, parce que, en fait, plus vous prenez des sucres complexes, c'est-à-dire, on a dit, les légumes secs, les céréales, etc., plus leur assimilation va être lente. Et donc, en fait, le cerveau va pouvoir
en profiter longtemps.
Par contre, si vous lui donnez des morceaux de sucre, alors pour un examen, ça va bien.
Oui, ça donne un flash.
Mais en fait, ça fonctionnera pas, effectivement, parce que les sucres rapides, ça fonctionne pas pour le cerveau en permanence.
Alors maintenant qu'on sait qu'il y a des effets sur le cerveau, mais il y a carrément des gens qui nous parlent de drogue dure.
Aujourd'hui, le sucre est tellement répandu dans notre société que si on retirait des étagères d'un supermarché tous les produits qui en contiennent, il n'en resterait que 20%.
En fait, mon idée, c'est de tester un régime à haute teneur en sucre.
Mais comment vous allez faire ?
Vous allez devoir ingérer environ 40 cuillères à café de sucre par jour.
40 par jour ?
Les habitants de notre planète deviennent chaque jour un peu plus malades. Et beaucoup de scientifiques estiment aujourd'hui que le fructose en est en grande partie responsable.
Ça influence mon cerveau, on en est sûr maintenant, et je me sens pas rassasié. Est-ce que je franchirai le seuil de l'obésité ?
Absolument, vous n'êtes plus très loin.
Tous les sucres, le sucre brun, le sucre blanc, le jus de fruits concentré à base de jus de fruits, ont tous les mêmes effets sur la santé. On your health.
Le sucre n'est pas mauvais en soi. Mais la vie est tellement plus belle quand on s'en débarrasse.
C'était la bande-annonce du documentaire Sugarland de Damon Gaymo, qui est sorti en janvier dernier. Alors il est vraiment édifiant, ce film. Mais alors pourquoi est-ce qu'on parle du sucre comme d'une drogue dure, docteur Ansel ?
Parce que, pourquoi on en parle de cette façon? D'abord parce qu'un certain nombre de gens, et on en voit, moi j'ai des patients qui me disent qu'ils ne peuvent pas s'en passer, d'une part, et deuxièmement, que lorsqu'ils consomment un aliment sucré, ils ne peuvent pas s'arrêter de le consommer. On a tous d'ailleurs cette expérience avec certains aliments. Moi personnellement, quand je commence un paquet de chips, j'ai du mal à m'arrêter. Il faut dire la vérité, et tablette de chocolat, si elle n'est pas à 90%, c'est un peu la même chose. Alors, ça évoque cette question, est-ce qu'on est addict au sucre comme on est addict au tabac, on est addict à la cocaïne ? Il y a des expérimentations animales qui ont été faites, qui suggèrent, quand vous mettez des animaux, des rats, face à des drogues comme la cocaïne ou face à du sucre, vous avez des similitudes. Et troisièmement, quand vous faites des IRM fonctionnels, les enregistrements du cerveau où on voit un peu ce qui se passe dans certaines situations, il y a des comportements au niveau du cerveau et des choses qui se passent au niveau du cerveau qui sont similaires. Voilà pourquoi un certain nombre de personnes parlent d'addiction au sucre. Je voudrais quand même temporiser ces propos en disant que c'est quelque chose qui est discuté dans la communauté scientifique, de savoir est-ce qu'on peut assimiler ça à une drogue dure ou à une drogue tout court ou pas, et puis revenir à des éléments cliniques simples que l'on va tous comprendre les uns et les autres. Si vous vous mettez à fumer ou à consommer de la cocaïne, c'est à peu près certain que vous allez être addict au bout d'un certain temps, que vous aurez du mal à vous en empêcher. Si vous consommez du sucre, ce que vous faites, je pense, tous les jours, eh bien, vous n'avez peut-être pas, vous, cette addiction. Et la majorité de la population consomme du sucre et n'est pas pour autant addict. Alors que la majorité des personnes qui fument ou qui prennent de la cocaïne sont addicts. Donc aujourd'hui, les cliniciens, comme moi par exemple, face à des patients, n'acceptent pas de comparer les choses. En pratique, il y a des personnes qui se disent addictes, on va les respecter, on va les aider, de façon personnalisée. Il y a d'autres personnes qui consomment du sucre de façon raisonnable et qui ont du plaisir avec ça sans être addict. Il faut aussi les respecter et ne pas leur faire peur.
La psychanalyste Catherine Grangeard a une formule géniale. Elle dit « Dès l'enfance, les petits Français savent que bonbon ne rime pas avec mauvais mauvais ». Alors, ça nous a rappelé une histoire bien connue.
Gretel, c'est pas un rêve ? La maison tout entière est faite avec des gâteaux et des bonbons ?
Ansel, regarde, le sucre d'orge.
Bienvenue.
Bienvenue les enfants. Oh, pauvre chérie, vous devez être affamée. Oh, alors, vous êtes tombée dans la bonne maison. Tout ce qui est ici est bon à manger. Entrez ici, cher petit.
Hansel et Gretel, un film de Lane Talant, d'après le conte des frères Grimm, évidemment, le lien entre sucre et plaisir, entre sucre et enfance, enfin, ce lien-là, on le comprend tout petit, Marie-Laurence Grézo, les bonbons, les récompenses, les aliments doudous, c'est quand même pas souvent des endives cuites.
Non, c'est des aliments très réconfortants, ils sont souvent très salés ou très sucrés. Alors évidemment, chez l'enfant, ils sont plutôt très sucrés, hein, puisque c'est quand même le premier lien avec la mère nourricière, c'est quand même le lait, c'est quand même il y a le sucre, c'est quand même le premier goût auquel on est confronté en tant que bébé. Et donc en fait, ce sont des aliments qui anesthésient nos émotions, ils sont apaisants, ils mettent le cerveau sur pause et donc ils nous font du bien quoi, littéralement. Hein.
Alors du coup, on comprend que les enfants soient des cibles idéales, Sylvie Metzeler. Dans le numéro double de l'été de 60 millions de consommateurs, vous publiez une enquête sur les boissons. Bah ouais, c'est l'été, il fait chaud, on a soif. Hein. Notamment les jus de fruits, les sodas. Pour quels résultats ?
Des résultats pas terribles, hein, il faut bien le dire. Alors ça permet de faire une gradation quand même, parce que dans chaque famille de produits, on en a étudié plein.
Vous en avez étudié combien ?
Plus de 180, je crois.
Ah donc ouais.
On a tapé sur vraiment ce qui s'achète dans les supermarchés. Enfin voilà, on a décliné tous les hits parades. Et effectivement, alors si sur les colas par exemple, je crois que la moyenne est à peu près à 3 sucres 8. Enfin l'équivalent, c'est-à-dire, enfin voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rapporté pour chaque boisson l'équivalent en morceaux de sucre par un verre simple.
Ah donc, oui, c'est ça. C'est, voilà. C'est plus noyé dans la bouteille. Voilà. C'est donc, concret. Voilà. C'est quand on boit un verre, il y a tant de sucre. Voilà.
Quand vous buvez un verre de cola, eh ben, sur certains, vous pouvez avoir l'équivalent de 4,6 morceaux de sucre, je crois. Mais pas que, parce qu'on se dit, les colas, on s'en doute un peu. En revanche, il y a des boissons, c'est les nectars de fruits, par exemple, ce que j'appelle moi des bombes à sucre, parce que vous dites, oh là là, c'est quand même beaucoup plus...
C'est du fruit.
Voilà, au oui. Petit déjeuner, c'est sympa quand même. Bah, pareil, hein, on peut avoir jusqu'à l'équivalent de plus de 4 morceaux de sucre. Alors, pas tous. Donc, le guide qu'on a fait permet de limiter un peu les dégâts et de faire des choix un peu plus éclairés, on va dire.
Ah, mais il y a plus sournois encore dans votre guide parce qu'il y a la mode des eaux aromatisées et des eaux de coco. Mmh. Et alors, moi, évidemment, je lis le mot eau, mais je suis totalement en confiance. Je me dis, c'est de l'eau, ça peut pas être mauvais.
Alors, il y a des choses un peu différentes en fonction de ces eaux. Alors, sur les eaux gazeuses aromatisées, là, au niveau sucre, c'est plutôt nickel. Alors, on va dire, il y a peut-être du sel hein, aussi. Donc,
d'accord.
L'étiquette, mais on assez peu. Non, mais là, franchement, on peut y aller. C'est quand même correct. Sur les eaux aromatisées, ça dépend un peu des parfums. Nous, on l'a fait, par exemple, sur le citron, ça va bien. Mais une eau aromatisée à la fraise, c'est pas la même histoire. Donc, il faut, en fonction de l'arôme choisi, ou le fruit tropicaux, par exemple... C'est pas la même chose.
Docteur Ansel.
Je crois que vous pouvez dire que sur les emballages, ça c'est un message très simple, ouais. Il y a la teneur en glucides. Oui. Et vous voyez tout de suite, en regardant l'emballage, les eaux aromatisées sans sucre et même sans édulcorant souvent, où vous n'avez pas de glucides. Vous regardez la case, la ligne glucides. Ouais. Et puis celles qui sont des jus de fruits à l'allure de l'eau. Et ça c'est très simple. Vous dites aux personnes, vous regardez glucides, soit il y en a, soit il n'y en a pas. Une eau aromatisée qui est comparable à de l'eau, ne doit pas avoir de glucides.
Alors, fin mai, l'Assemblée nationale a retoqué l'interdiction des publicités pour aliments trop gras et l'étiquetage nutritionnel obligatoire. Ça vous inspire quoi, à tous ?
Au lait fourche. Ah oui, chez nous, à 60, ça nous a rendu hystériques, parce que naturellement, on milite vraiment pour ça. Alors, on comprend bien, hein, parce qu'il y a plein d'industriels qui n'ont pas du tout envie de voir ce que ça représente. Parce que l'étiquetage qui est préconisé, à savoir le Nutri-Score, il y a des lettres, mais il y a surtout des couleurs. Donc, ça va du vert foncé au rouge, en passant par le vert clair, le orange, ouais. Etc.
Quand je le vois, je me dis, feu vert, c'est bon.
Ouais, oui, on peut se dire ça. Alors, il y a des limites. Alors, c'est bien parce que sur cette note, il y a la part des sucres, la part du sel, la part des gras, etc. Enfin, tous les trucs un peu graves. Alors, il y a des choses, on a été embêtés par rapport quand on a fait notre petit supplément boisson, parce qu'on voulait mettre ce Nutri-Score pour toutes les familles de produits. Et là, on a été, on s'est heurté à la limite de l'exercice, à savoir que ça rend, dans ce Nutri-Score ne rendent pas du tout en compte les édulcorants. Donc si on avait fait le Nutri-Score pour les édulcorants, on se serait retrouvé avec des produits orange ou vert clair, etc. Parce que en termes de calories, effectivement, c'est pas mal. Mais ça pose d'autres problèmes, les édulcorants. Donc voilà.
D'accord. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a du sucre dans tout ? Pardonnez ma naïveté, hein, mais dans les plats industriels, dans les sushis des supermarchés. C'est quand même dément, mais le Japon devrait nous faire un procès. Pourquoi du sucre caché comme ça partout ?
Pourquoi vous étonnez les sushis, c'est du riz. D'abord, le riz, c'est du sucre. Et puis, pour faire... moi, je suis pas cuisinier, mais pour faire du sushi, on m'a toujours dit qu'il fallait un kilo de riz, un kilo de sucre. Je sais pas, mais c'est ce qu'on m'a dit, et je crois pas que c'est que français. En tout cas, peu importe comment on l'a fait, mais le riz... C'est du sucre. C'est du sucre, le riz collant, à fort index glycémique. Donc, c'est surtout pas un aliment allégé en sucre. C'est pas un aliment sain. C'est un aliment qui est bon. C'est tout.
D'accord. Eh ben, on est mal. Vous écoutez une bonne tasse d'été jusqu'à 10h sur France Inter. Et pardon si on vous donne faim.
Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as pleuré. C'est encore lui qui récidive. T'as rien mangé depuis jeudi. Ce que t'as changé, ma petite bri-bri. Oublie-le vite, oublie ce type. Viens, goûte mes frites. T'as vu ce veau? Qu'est-ce qui t'a pris? Avec Véro, on te l'avait dit. Une cigarette de Pépito. Tu t'es retrouvé sur son frigo. Oublie-le vite, oublie ce type. Viens, goûte mes frites. Drôle, t'en souviens-tu? Avant qu'il te colle toujours au cul. Moi j'en ai marre de te voir souffrir pour ce ringard en gilet de cuir. Oublie-le vite, oublie ce type. Viens, mes frites.
Mes frites, mais quand c'est Valérie Le Mercier qui le propose, c'est difficile de refuser.
France Inter, Marie Sauvion.
J'ai l'impression que les vacances vont enfin commencer.
Vous reprendrez bien une bonne tasse d'été.
Merci d'être de retour dans la version light d'une bonne tasse d'été. Depuis le début de cette émission, nos invités nous ont expliqué les bienfaits, les méfaits du sucre, les pièges de l'étiquetage. Mais alors, on parlait des produits industriels juste avant la musique, Sylvie Metzolar, et vous aviez envie d'ajouter quelque chose sur la présence du sucre absolument partout.
Ouais, pourquoi on en a partout? Alors, parce que c'est un exhausteur de goût, donc ça permet de donner du goût quand il n'y en a pas. Ça permet de limiter l'acidité de certains produits. Ça permet d'éviter certains développements microbiens. C'est pour ça qu'on a
notamment qu'il y en a plein dans les charcuteries industrielles. Et ça fait aussi du liant sur les sauces et ça remplace le gras. Parce qu'il faut regarder un truc, quelque chose qui m'avait beaucoup choqué quand on avait fait une enquête il y a 2 ans, c'est sur les sauces allégées. Par exemple, vous regardez toutes les sauces allégées, et ben on vous a enlevé du gras, mais on vous a mis du sucre.
Alors du coup, est-ce que faire la chasse au sucre, ce qui est un petit peu la question qui nous réunit ce matin, je ne vous le cache pas, revient à acheter des produits light, ou en tout cas des sodas sans sucre par exemple, avec, où on mettrait à la place, je ne sais pas quoi, de l'aspartame, je ne sais pas ce qu'on met dedans. Marie-Laurence Grisot, c'est le principe de la radio, on ne vous voit pas, mais vous faites des signes, carrément vous êtes en guerre là, je vois bien que vous dites non.
Oui, parce qu'en fait, si on regarde dans le passé, l'explosion du diabète, elle est concomitante avec l'explosion des produits allégés dans les années 90 en fait. Alors je ne sais pas, oui, on peut... Mais je trouve qu'en fait, avoir voulu retirer le sucre, mis des édulcorants, rajouter éventuellement du gras, parce qu'il faut remplacer, et en fait les produits et les industriels, ils sont obligés pour garder les textures, les exhausteurs de goût, etc., ils sont obligés de rajouter des produits quand ils retirent le sucre. Et ça, c'est la cata, souvent, pour l'organisme. Il n'y comprend rien, il ne sait pas ce qu'on lui offre, c'est rien de naturel.
Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre? C'est quoi les bons édulcorants ou les bons produits de substitution, c'est-à-dire les bonnes alternatives au sucre, mais qui auraient quand même un petit goût sucré?
Bah, moi, pour moi, j'aime qu'on fasse les produits soi-même. Par exemple, quand on prépare un gâteau, on va choisir sa farine, son sucre, on choisit ses produits. Voilà. Et à partir du moment où les produits sont, de bonne qualité, bon, évidemment, aujourd'hui, il y a pléthore de sucre. Hein. Quand on va dans un magasin bio, vous avez toutes sortes de sucres bruns complets, des sucres de coco, ce qu'on appelle le rapadura, c'est des sucres complets qui sont pas raffinés, etc. Donc, ils ont un index glycémie plutôt bas, ces sucres-là. Donc, ils sont intéressants. On peut les utiliser dans la pâtisserie. Le miel, tout ça, ce sont des sucres qui peuvent remplacer. Mais bon, après, je trouve que faire soi-même, c'est ça l'essentiel, en fait. Ça permet de contrôler le sucre que vous mettez dans un produit.
Eh ben d'accord, parlons gourmandise.
Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours. Allumez votre four.
La délicieuse voix d'Anne Germain dans Peau d'âne de Jacques Demy, bien sûr. Docteur Ancel, dans votre livre « Sans gras ni sucre » ou presque, coécrit avec le pâtissier Benoît Molin, vous donnez par exemple une recette de crêpes légères. Alors moi j'ai regardé les ingrédients. Il y a de la farine complète, il y a de l'eau, 50 centilitres, il y a du lait en poudre, il y a du sirop d'érable et du sucre de bouleau. Alors vous les avez goûtées, ces crêpes?
j'ai pas tout goûté pour vous dire la vérité, parce que moi j'ai surtout demandé à Benoît de respecter un certain nombre de règles. Après je fais confiance sur l'aspect gustatif et ce que j'ai goûté effectivement me plaisait beaucoup. Vous voyez que dans cette recette on respecte un équilibre. Pour reprendre ce qui a été dit et pour faire simple, pour ce qui est des sucres de saccharose, qu'ils soient raffinés par raffinés, c'est la même chose. Donc on va pouvoir en mettre un petit peu et il n'y a pas lieu de l'éliminer. Vous savez, dans ce livre, vous avez bien mentionné, on dit sans grain ni sucre ou presque. Tout est dans le « ou presque ». C'est pas qu'on va enlever tout, c'est qu'on va respecter la quantité qui est nécessaire à la fois pour la saveur, à la texture et
le
fonctionnement du cerveau. Donc on va garder un peu de sucre. Quand on peut limiter la quantité, on va limiter. On ne s'interdit pas d'utiliser des édulcorants de temps en temps. Les édulcorants, vous savez, ont fait l'objet d'un rapport de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité des Aliments, en 2015. La conclusion, elle dit qu'il n'y a ni des avantages à consommer ces aliments, c'est-à-dire que ça ne prévient pas le diabète, ça ne prévient pas l'excès de poids, ça ne prévient pas les cancers, mais il n'y a pas non plus de risque qui soit démontré. On a entendu beaucoup de choses pour taper sur ces édulcorants. L'ANSES dit qu'il n'y a pas de preuve formelle pour dire, et pas de preuve du tout pour dire, que ces édulcorants favorisent le cancer, favorisent même l'appétence pour le goût sucré des enfants. Ça n'a pas été démontré. Concernant l'augmentation de l'insuline, c'est complètement faux. Il n'y a pas une étude, et j'ai encore regardé hier, qui démontre que consommer de l'aspartame provoque un pic d'insuline. Donc, la conclusion de ce rapport, c'est de dire qu'il n'y a pas de preuve que ça soit bénéfique. Donc, effectivement, il n'y a pas lieu de remplacer tous les sucres par ces produits-là. Mais il n'y a pas lieu non plus de les interdire. Donc, d'accord. Après, on va en utiliser certains Et là, on a utilisé parfois la stevia ou parfois d'autres édulcorants naturels. Et le sucre de bouleau, que j'ai découvert avec Benoît Molin, c'est un édulcorant naturel qui a un pouvoir sucrant important et un index glycémique, on en a parlé tout à l'heure, très faible. Donc vous voyez, dans cette recette, on a équilibré les choses pour que le goût soit satisfaisant et pour que sur le plan santé, la recette soit la plus irréprochable possible.
Alors les enfants sont officiellement en vacances aujourd'hui, les plus vénards vont partir, les autres pas, mais enfin ils auront tous envie à un moment ou l'autre dans l'été de se régaler. Alors les glaces, c'est permis, les gaufres, les chichis, j'en parlais, les petits beignets sur la plage, etc. Est-ce qu'il faut passer son été à dire non aux gamins? Est-ce qu'il faut dire... Voilà, tu manges un beignet à l'heure du goûter, mais du coup tu mangeras, une pomme ce soir. Enfin, comment
ça
marche?
C'est pas une punition.
L'équilibre ouais, quotidien, mais en fait.
D'abord, c'est important de dire la pomme n'est pas une punition et le sucre n'est pas une récompense. Donc, manger...
Dites ça aux gosses.
Mais ouais, non, mais j'ai 3 enfants et je peux vous dire que c'est comme
doux.
Ça qu'il faut fonctionner et ça marche à 80%. Le problème, effectivement, c'est la contamination extérieure. Hein. Quand tous les enfants sont récompensés par la sucette ou je dirais pas des exemples, mais donc non, c'est un équilibre. L'alimentation, c'est un équilibre, et donc comme l'a dit
Marie-Laurence,
le plus important, c'est de consommer le plus brut possible. Ça, on est tous d'accord. Et ça, c'est le rôle des parents de s'organiser pour cela. Ensuite, concernant les aliments qu'on peut trouver au bord de la mer ou même au supermarché, il n'y a aucun problème à en consommer de temps en temps. Le problème, c'est très simple, et chez moi, ça ne sera jamais comme ça, c'est le placard qui est plein de biscuits, de chocolat au lait, de bonbons,
de
et choses comme ça. Ça, c'est non. En revanche, de pâte à tartiner bien connue. En revanche... La pâte à tartiner de meilleure qualité, il y en a. Et puis, des produits bruts, il doit y en avoir. Et quand on sort, quand on veut se faire plaisir avec d'autres choses, eh bien, on le fait.
On s'amuse, mais une bonne tasse d'été, c'est déjà fini. Merci d'avoir passé cette première semaine en notre compagnie. Merci à nos invités de s'être arrêtés chez nous ce matin.
Merci.
Au revoir,
vous.
Boris Ancel.
Merci beaucoup.
Je rappelle le titre de votre livre, Sans grain ni sucre, ou presque, Être gourmand autrement, aux éditions Flammarion. Au revoir, Sylvie Metzolar. Le numéro d'été de 60 millions de consommateurs est en vente chez tous les kiosquiers. Le prochain sort quand ?
23 août, je crois.
Au revoir, Marie-Laurence Grézeau de Psychologie Magazine, notre partenaire. Et je rappelle que vous êtes l'autrice de Ces aliments qui rendent heureux chez J'ai lu Bien-être. Lundi, on se retrouve à 9h pour parler de ça.
Et voilà, c'est là. Pile. C'est à ce moment-là. Tout d'un coup, j'ai compris que, sauf événement imminent, j'allais passer le restant de mes jours en tête-à-tête avec une bouteille de vin. Pour finir par mourir grosse et seule, et on me retrouverait 3 semaines plus tard, à moitié dévorée par des bergers allemands. Ou alors j'allais me la jouer Glenn Close dans Liaison Fatale.
Le thème du jour, lundi, ce sera le journal intime. Pourquoi tient-on un journal intime? Est-ce qu'il n'y a que les jeunes filles qui tiennent des journaux intimes? Est-ce que Jules Renard était une jeune fille? Que lui confie-t-on? Peut-on en commencer à tout âge? Le journal intime a-t-il des vertus thérapeutiques? Cette émission était réalisée par l'infatigable François Audouin, préparée par les incollables Sophie Hoffmann et Camille Poux-Jalaguier, avec l'aide inestimable d'Audrey Abraham et Colin Posnick-Gruel, nos stagiaires. À la technique, Alexandre Chenet. Merci à lui. Et joie ineffable, il est maintenant l'heure de retrouver Laurent Delmas et son ciné qui chante. Qui est votre invité,
Laurent?
On va
surtout retrouver Agnès Varda, que nous sommes allés voir chez elle, et elle va nous parler évidemment de chansons et de cinéma, la reine Agnès.
Ah, mais quel bonheur, Agnès Varda, dont le film L'une chante l'autre pas est ressorti mercredi.
Et il faut impérativement aller le voir sur grand écran, oui.
Un film musical et féministe, je tiens
c'est
à le dire.